Philosophie morale, le 19 novembre 1982, Rimont.
Je réponds tout de suite aux quelques questions posées. Donc c'est la théologie morale. Hein. Changeons de vitesse. Philosophie morale, la théologie morale. Comment la connaissance de l'autre me révèle-t-elle à moi-même? Ça, c'est une question difficile qu'on verra du reste avec le problème de l'amour d'amitié. Essayer de comprendre comment, de fait, connaissant l'autre, et par la connaissance de l'autre, j'arrive à moi-même me connaître. Oui, c'est toute la question de l'acte et de la puissance, en définitive. Seul celui qui est en acte est intelligible. L'autre que j'atteins a une certaine actualité. Et parce qu'il a une certaine actualité, il détermine mon intelligence, il me perfectionne, et par là, je peux arriver à mieux me connaître. Mais évidemment, on peut comprendre ça parfaitement que dans la mesure où on aura fait un peu la critique de la connaissance, c'est dans la mesure où on a fait la critique de la connaissance. On a peut-être une petite expérience de cela, vous voyez. C'est que l'autre que je connais, que j'aime en ce sens que je le connais dans une connaissance affective, me révèle à moi-même ce que je suis. Parce que du fait même que je l'aime et que j'essaie de connaître ce qu'il est, il y a quelque chose en moi qui se perfectionne. Il me finalise, c'est mon bien, il m'actualise, et par le fait même, il me fait mieux comprendre, pratiquement, pas spéculativement, mon orientation profonde. Par lui, je suis finalisé, l'autre me finalise et me permet de me finaliser. Donc, dans la mesure où il me finalise et dans la mesure où il me permet de me finaliser, je peux de cette manière mieux me connaître. Un être qui est finalisé est déterminé. Il est actualisé. Et donc, il a une possibilité de mieux se connaître que lorsqu'il est indéterminé. Quand il n'est pas finalisé, il est errant. On a ça, du reste, on sait très bien ça dans sa vie. Hein. Il suffit de réfléchir 3 minutes dans sa vie. Quand on n'est pas déterminé, quand on est quelqu'un qui est encore très indécis et qui n'est pas déterminé, bon, on reste un être en puissance. On est un être errant, comme disait Platon. Hein. Un être errant, c'est un être indéterminé qui ne sait pas où il va. Et par le fait même, il est capable de toutes les influences. Il est capable de tous les il peut recevoir tous les microbes. Hein. Tandis que s'il est vraiment déterminé, vraiment orienté, il y a quelque chose en lui qui l'actualise et il est beaucoup plus fort. Quand on n'est pas déterminé, on est dans un état de faiblesse. Vous voyez ? Et l'autre me détermine parce qu'il est mon bien. Et alors, dans la mesure où il me détermine parce qu'il est mon bien, il me permet de me connaître mieux. L'autre me détermine. En plus de ça, il y aurait le fait, ça c'est sûr, mais ce ne serait pas tout à fait la même chose, c'est que l'autre, parce que je l'aime, peut aussi me connaître en me connaissant. Et par sa connaissance sur moi, m'aide à me connaître. Ça c'est l'autre aspect, mais c'est moins direct. Hein. Oui. C'est la réflexion que quelqu'un qui m'aime bien me fait la réflexion spontanée, mais fais attention, tu vois pas ce que tu es, un autre ne pourrait pas dire ça. Mais un ami peut le dire. Un ami peut dire, attention, fais attention, tu vois pas ce que tu es, dans telle ou telle circonstance, l'attitude que tu as, tu ne vois pas ça, tu ne fais pas attention à ça. Alors, on peut préciser comme ça. Et alors l'autre m'aide à me connaître. C'est l'ami qui me permet de me connaître. Alors, nous y reviendrons là-dessus, hein. C'est important. Vous dites que l'homme, dans un véritable amour, est accepté librement et choisi librement. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas ici quelque chose qui relève de la métaphysique, l'autre comme quelqu'un qui s'impose à moi, qui m'oblige du fait même qu'il existe à le respecter? Oui, je vois ce qu'on veut dire. Hein, c'est que l'homme, dans un vrai amour, est accepté librement et choisi librement. Par l'amour, j'accepte l'autre. L'autre, je le connais à travers cet amour. Mais je peux aussi, à travers cet amour, reconnaître que l'autre existe. Je ne dirais pas que c'est la métaphysique, c'est tout simplement le jugement d'existence. Le jugement d'existence n'est pas encore la métaphysique, ce que nous voyons ce matin. C'est l'entrée dans la métaphysique. C'est le seuil de la métaphysique. Mais l'entrée dans la métaphysique, c'est la découverte des principes propres. Donc un au-delà du jugement d'existence. Le jugement d'existence est une condition sine qua non pour que je puisse entrer en métaphysique. Et c'est très vrai qu'à travers l'amour que j'ai vis-à-vis de l'autre, il y a nécessairement un jugement d'existence qui va se porter. C'est pour ça que je peux parler d'une expérience de l'amour d'amitié. Dans l'expérience de l'amour d'amitié, je découvre l'autre. L'autre en tant qu'il existe. Mais je ne mets pas l'accent sur son existence, je mets l'accent sur l'amour que j'ai pour lui. Et c'est ça le propre de l'expérience de l'amour d'amitié. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est bon ? L'autre est un ami. Dans la mesure où je l'aime, dans la mesure où il y a un amour qui se porte vers lui, c'est une connaissance affective, cette connaissance que j'ai. J'ai la connaissance affective de l'ami. Dans la connaissance affective de l'ami, qu'est-ce qu'on regarde en premier lieu? C'est que cet ami est pour moi source d'amour. Il est mon bien. Il suscite en moi cet amour. Donc c'est dans une connaissance amoureuse que je le saisis. Mais cette connaissance amoureuse, elle se fonde sur l'exister. Cet ami, cet autre, il existe. Alors je peux à ce moment-là, au-delà de la connaissance affective, découvrir le jugement d'existence. Mais je quitte la connaissance affective à ce moment-là, pour découvrir le jugement d'existence. Mais il y a quand même deux types de connaissances très différentes. Quand on aime quelqu'un, vous ne vous posez pas la question, est-ce que tu existes? Non, vous ne le dites pas. Vous l'aimez. Dans votre amour, l'exister est présent. Mais il n'est pas formellement et explicitement présent. Une connaissance affective n'est pas explicitement une connaissance qui porte sur l'exister. La connaissance affective porte sur l'ami comme ami. C'est des précisions, si vous voulez, mais qui sont nécessaires à faire au point de vue de notre connaissance. La différence entre le jugement d'existence et la connaissance affective, c'est pas la même chose. Y a-t-il une différence entre le couple œuvre, méthode et le couple fin, moyen? Ça, c'est autre chose. Essayez de comprendre. La méthode et l'œuvre. Je vous disais tout à l'heure à propos de l'artiste, du médecin. Hein, la méthode. L'œuvre, c'est la santé. C'est évident que l'œuvre, c'est donc, ça joue le rôle du but vers lequel je tends. Toute ma réalisation artistique, tout mon travail, si vous voulez, se sert d'une méthode pour être plus efficace. La méthode est en vue de l'efficacité, en vue de la rapidité. Quand vous n'avez pas de méthode, vous savez bien que vous allez beaucoup plus lentement. Dès qu'on peut vous donner une méthode de travail, ça va beaucoup plus vite. Et on vous dit au début que vous faites de la philosophie, pas de méthode de travail, découvrez votre méthode de travail. Alors à ce moment-là, on vous remet la tête sous l'eau. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de méthode de travail en philosophie. Bon, il y a des procédés, mais il n'y a pas une méthode. On ne vend pas des méthodes pour être intelligent. Or, la philosophie, ça consiste à être intelligent. C'est C'est l'intelligence qui s'éveille dans ce qu'elle a de tout à fait radical. Nos intelligences sont rouillées, faut bien le dire. Nos intelligences sont orientées vers la canalisation. Nous sommes tous des mécaniciens de la canalisation. Robinet chaud, robinet froid, robinet tiède, n'est-ce pas? Et là, nous connaissons très bien ces choses-là. Mais notre intelligence peut très bien être tout endormie. Et la plupart du temps, c'est ce qui se passe, les intelligences sont endormies. La philosophie est là pour réveiller l'intelligence. Et vous rappeler qu'il y a en vous l'intelligence que vous devez réveiller, chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'au sens strict, il n'y a pas de méthode de philosophie spéculative. Il y a des méthodes d'historien, il y a des méthodes au point de vue découverte de telle ou telle chose. Vous voyez, les méthodes, c'est surtout leur pratique. Mais il y a des méthodes quand même historiques, on peut en arriver. Mais la méthode au niveau de la connaissance spéculative de la métaphysique, vous la faites vous-même. Sans strict. C'est la difficulté. Une fois que vous avez découvert, vous pouvez noter l'itinéraire que vous avez suivi. Mais l'itinéraire n'est pas une méthode. Pas la même chose du tout, l'itinéraire. Vous suivez l'itinéraire. Oui, à tel moment, j'ai eu telle connaissance, à tel autre moment, j'ai eu telle autre connaissance. Je vois très bien l'itinéraire. La carte Michelin, c'est un itinéraire. C'est pas une méthode. Il y a un itinéraire et il y a une méthode. Je dis, parce que, vous voyez, méthodos, il ne faut pas oublier le méthode. C'est méthaodos. Or, odos, en grec, odos, c'est la route. L'itinéraire, c'est la route. Et vous voyez, méta-odos. C'est ça, méta-odos. C'est méta-odos. C'est avec, donc, ce qui est, ce qui accompagne, ce qui est avec la route. Ce qui indique la route, une méthode. Ce n'est pas un itinéraire. Bon. Alors, la méthode est, d'une certaine manière, un moyen. Et l'œuvre est un but, donc une fin. Alors, je comprends l'analogie qu'on pose ici. Donc, pouvons-nous faire la différence entre le couple, donc l'analogie, pouvons-nous poser l'analogie entre moyen et fin? Moyen et fin est beaucoup plus général que méthode et œuvre. Mais c'est vrai que c'est comme ça. La méthode est toujours du côté des moyens. Elle est en vue de... Tandis que l'œuvre n'est pas en vue d'eux. L'œuvre, c'est l'œuvre. C'est le but. Comme œuvre, je peux m'en servir. Alors à ce moment-là, l'œuvre servira de moyen en vue d'autre chose. Ben, si je construis, si mon œuvre, c'est un outil. L'outil est fait essentiellement pour s'en servir. Alors l'œuvre, là, est en vue du service. Mais ce n'est pas en tant. C'est en tant que telle œuvre, ça. C'est telle œuvre, c'est comme ça. Telle œuvre, c'est l'outil. Mais l'œuvre comme telle est un but, le but de la réalisation. Vous voyez, distinguons bien les deux. Donc on peut très bien dire que les deux sont comme ça. Bon. Si oui, laquelle, sinon, bon, y a-t-il une différence entre le couple? Donc il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Il y a une analogie. Il y a une analogie. Moyen et fin, c'est quelque chose de beaucoup plus général que méthode et œuvre. Vous voyez? Parce que méthode et œuvre, vous allez tout de suite saisir, méthode et œuvre, c'est dans l'ordre de la réalisation. C'est dans l'ordre de la connaissance réalisatrice. Tandis que moyen et fin, c'est à l'égard de tout le point de vue de la causalité finale, et puis ce qui est au service de la causalité finale. Moyen et fin sera en premier lieu du côté de l'agir, de la durée. Donc, du côté de l'activité morale. Dans l'activité morale, la première distinction que je fais, c'est entre la fin et le moyen. C'est la première distinction. Ça, nous allons voir. Nous allons voir. C'est une distinction fondamentale dans la philosophie morale. La philosophie morale de l'agir doit tout de suite distinguer. On sait très bien que la plus grande des confusions qu'on peut faire dans l'ordre moral, c'est de confondre les moyens et la fin. Cette confusion des moyens et de la fin est analogue à la confusion de la substance à l'égard d'accident. Alors vous pouvez mettre ça, vous prolongez. fondamentale dans la philosophie morale. La philosophie morale de l'agir doit tout de suite distinguer. On sait très bien que la plus grande des confusions qu'on peut faire dans l'ordre moral, c'est de confondre les moyens et la fin. Cette confusion des moyens et de la fin est analogue à la confusion de la substance à l'égard de l'accident.
Alors vous pouvez mettre ça, vous prolongez. Accident. Substance. Vous pouvez écrire ça. Il y a une analogie. Ici, vous êtes dans l'ordre de la connaissance spéculative. Donc ici, vous êtes dans l'ordre de la connaissance morale, ici dans la connaissance de la réalisation, donc de l'efficacité. Dans l'ordre de l'efficacité, vous distinguez la méthode et l'œuvre. Dans l'ordre de l'efficacité. Et dans l'ordre de la connaissance spéculative, vous distinguez accident et substance. Et vous pourriez prolonger. Autrement dit, je trouve des choses analogues, des distinctions analogues dans les différents domaines de la connaissance. Dans les différents domaines de la connaissance, je peux très bien distinguer le point de vue du moyen et de la fin, parce que le moyen est totalement ordonné à la fin. Et la fin, en fait, c'est le terme. Ce au-delà de quoi je ne vais pas. Ce au-delà de quoi je ne vais pas. C'est ça le propre de la fin. Vous voyez ? Tandis que le moyen, c'est essentiellement ce au-delà de quoi je vais. Je me sers d'un moyen. Tandis que vous ne pouvez pas dire que vous vous servez d'une fin. Donc, c'est intéressant à bien voir les différences. Y a-t-il une différence entre le couple ? Donc, œuvre, méthode, fin, moyen. Si oui, laquelle ? Je donne les différents domaines. Sinon, ne pouvons-nous pas dire que, comme il en est pour la fin et les moyens, l'œuvre et la méthode sont liées à une morale ? Ah. Non, je ne peux pas dire ça. Je veux dire que le moyen et la fin, c'est la distinction première dans l'ordre moral. La distinction de la méthode et de l'œuvre, c'est la distinction première dans l'ordre de l'efficacité. La distinction accident et substance, c'est la distinction première dans l'ordre de la connaissance spéculative. Vous voyez, voilà l'analogie. Voilà, vous avez un procédé analogique. Vous voyez, à des niveaux différents, quelque chose de commun. La distinction entre moyen et fin. La distinction entre méthode et œuvre. Il y a cette chose à comprendre.
Oui. Est-ce que ça a un sens de parler de fin intermédiaire ?
Oui, ça a un sens, c'est la scolastique qui parlera de ça. Ça a un sens dans ce sens que je peux me reposer, c'est un terme, vous voyez, et à partir de là, je rebondis. Vous pourriez dire l'outil est une fin intermédiaire. Oui. C'est un but intermédiaire. Je fais un outil en vue de m'en servir, normalement, et non pas pour le mettre dans mon musée. Mais je peux très bien mettre un outil dans un musée. Quand vous mettez un outil dans un musée, qu'est-ce que vous faites ? Ce très vieil outil, merveilleux, ce très très vieil outil, il vaut mieux le mettre au musée. Très vieille locomotive, hein. Il vaut mieux le mettre, très vieille auto, il vaut mieux le mettre dans un musée. Bon. Et il est à un moment donné, quand je l'ai fait, quand j'ai travaillé et que j'ai fabriqué l'outil, l'outil a été le terme de toute une méthode de travail. Et puis, une fois que je l'ai fait, je m'en use. Donc, c'est une fin intermédiaire, vous voyez. C'est un but, et à partir de là, je recommence. Donc, il y a vraiment une fin intermédiaire. Tout n'est pas fin ultime. Il y a des fins intermédiaires. On verra ça en morale, si vous voulez. L'ami est une fin intermédiaire. C'est une fin intermédiaire, faisons attention. C'est une fin. C'est mon bien. Mais est-ce que c'est mon bien dernier ? Oui. Alors là, la question reste ouverte. Oui. Alors, dernière question. Comment pouvez-vous dire que la morale n'existe que s'il y a un dépassement ? Exemple. Oui. La morale. La vie qui reste. Oui, je veux dire que la morale n'existe au sens fort que quand il y a un bien que j'aime. Or, le bien est nécessairement ce qui joue le rôle de fin et donc qui me permet de me dépasser.
quand j'aime quelque chose qui n'est pas au-delà de moi et qui reste purement immanent, au sens rigoureux, il n'y a pas morale. Vous voyez, il y a, c'est pas le bien. Plus le bien, c'est un moyen. Le moyen ne me fait pas dépasser. Mais là, le moyen, je l'aime qu'en fonction du bien. Le bien est toujours quelque chose qui me transcende. Autrement, c'est pas mon bien. Alors, est-ce qu'il peut y avoir une morale tant que je n'ai pas découvert le bien? Je crois pas. Si je n'ai pas découvert le bien, il n'y a pas de morale. C'est la découverte du bien, quelque chose qui me dépasse, quelque chose qui peut jouer le rôle de fin, donc quelque chose qui me permet un dépassement, qui donne le point de vue moral. Tant qu'il n'y a pas de dépassement, tant qu'il n'y a pas de dépassement, il ne peut pas y avoir de moral. Tant on verra progressivement, petit à petit, garder ces questions, des objections, si ça reste des objections pour vous, on va essayer de comprendre maintenant le point de vue proprement moral. Je vous ai dit la dernière fois qu'en présence de la philosophie de Nietzsche, qui détruit le point de vue moral de Kant, Nietzsche, comme toujours, tant au niveau métaphysique qu'au niveau éthique, Nietzsche exige le philosophe, c'est-à-dire l'homme qui réfléchit tout simplement, et qui est obligé de tenir compte de Nietzsche. Je peux très bien le mettre entre parenthèses, je ne me mets pas du tout à la remorque de Nietzsche, mais Nietzsche a existé. Et je ne peux pas faire qu'il n'a pas existé. Je sais qu'il a une grosse influence sur les jeunes, encore plus que le marxisme. Et donc, si je veux comprendre la mentalité de ceux qui sont autour de moi et de moi-même, je suis obligé de comprendre ce que la position de Nietzsche et comprendre qu'est-ce que je vais répondre à Nietzsche. Alors, comment reconstruire aujourd'hui une philosophie morale? Comment donner à la morale un fondement qui soit vraiment philosophique? C'est-à-dire un fondement sur lequel je peux réfléchir. Si je suis croyant, comprenons bien, si je suis croyant, je n'ai pas besoin de fondement de ma morale, parce que ma foi me donne. Dans ma vie pratique, toute ma morale repose sur la foi. Si je suis chrétien, ça fait bien comprendre. Dans ma vie pratique, toute ma morale repose sur ma foi. Parce que je suis croyant, le Seigneur me dit que je dois observer les commandements de Dieu, la loi. Pas un gâteau de la loi ne disparaît. Or, la loi, je ne dis pas que la loi fonde la morale, mais la loi exprime une morale. La loi ordonne une morale. Donc, la foi dépasse la loi. La loi implique une morale religieuse. Un seul Dieu qui est un homme, c'est le premier commandement. La loi est premièrement religieuse, puisque c'est l'adoration. Et puis en second lieu, cette morale qui est la loi implique une morale humaine. On proscrit l'adultère, on proscrit le vol. Tout ce qui est des relations de l'homme avec l'homme. Donc, on peut tout de suite discerner que ma foi me permet de comprendre la morale dans ce qu'elle a d'ultime, les béatitudes évangéliques. Les béatitudes évangéliques, c'est la morale chrétienne. Cette morale chrétienne, elle s'épanouit directement dans la foi. C'est-à-dire directement à partir de la foi dans les béatitudes évangéliques. Cette morale chrétienne assume la loi. La loi n'est pas une morale. Elle est une morale révélée de fait, parce qu'elle est révélée, mais elle a le contenu d'une morale humaine, religieuse et humaine. Et la loi va me faire comprendre le point de vue de la lutte. Je vois que cette morale est s'acquiert dans la lutte. J'ai donc les trois grandes dimensions, les quatre dimensions, si vous voulez, de la morale dont je vis. et dont vous vivez. Les béatitudes évangéliques, c'est vers ça que nous tendons. L'aspect humain de l'adoration, l'aspect religieux de l'adoration, l'aspect humain de la justice. Payez vos impôts. Je ne peux pas dire parce que je suis croyant, je fais exempt de mes impôts. Non, je ne peux pas dire ça. Donc la justice demeure. Et tout cela se réalise dans la lutte, une modalité particulière. Ça, je crois qu'il faut bien comprendre ça. Dès que je suis croyant, immédiatement, je vois ça. La morale chrétienne, c'est les béatitudes évangéliques, c'est bien évident. C'est les béatitudes évangéliques qui montrent les exigences ultimes de la morale chrétienne. La morale chrétienne a quelque chose d'unique qui s'épanouit dans les béatitudes évangéliques. Et les béatitudes évangéliques me font comprendre l'homme chrétien, l'homme surnaturalisé, l'homme chrétien. C'est sept béatitudes, c'est les sept dons du Saint-Esprit. Alors, les sept qui forment. Et ceci me fait comprendre ce que c'est que l'homme transformé par la grâce. Cet homme transformé par la grâce ne perd pas sa nature humaine. Ici, je suis en face de la nature humaine. Je suis en face de l'image de Dieu qui est en moi. Alors, cette morale évangélique assume le point de vue proprement religieux de l'adoration et assume tout point de vue humain. Et me permet de comprendre que la lutte est toujours plus forte. C'est donc quatre dimensions de la morale chrétienne. Cette lutte est interne et cette lutte est externe. Interne, les conséquences du péché originel, les croix insuffisantes, dans le temps de Saint-Jean, lutte externe, Lucifer, le démon. Les forces du mal. Voilà ce que je peux constater tout de suite. En tant que chrétien, je constate ça tout de suite. Vous voyez donc, au point de vue chrétien, ma morale se fonde sur quoi ? Ma morale se fonde sur les béatitudes évangéliques. Pourquoi vais-je payer mes impôts si je suis chrétien? Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Non. Je paye mes impôts parce que je suis chrétien, je les fais pour vivre des béatitudes évangéliques. Ce n'est pas pour autre chose, c'est pour aimer plus le Christ. L'adoration, c'est la même chose. Je continue d'adorer parce que je suis chrétien. Et je reconnais que je suis fatalement dépendant à l'égard de Dieu. Et ceci, je le fais dans la lutte parce que je sais qu'il y a en moi une double lutte, une lutte interne et une lutte externe. Oui. Donc là, vous avez les dimensions de la morale chrétienne. Tandis que si je regarde maintenant d'un point de vue purement philosophique, d'un point de vue purement philosophique, je peux me poser la question, il y a des opérations morales. Quelles sont ces opérations morales? Payer ses impôts. Justice. C'est un acte de justice. Un acte de justice est un acte d'opération morale. C'est un acte moral. Si c'est bien payé, équitablement, selon la norme de la loi, eh bien, à ce moment-là, mon acte de justice, mon acte est bon. C'est une opération morale, c'est une opération bonne. Qu'est-ce qui fonde cette morale? Qu'est-ce qui fonde cela? Qu'est-ce qui me permet de rendre justice que cette opération morale, que cette opération de payer les justes, cette opération, cet acte de justice est bon? Oui, ça c'est la grande question d'aujourd'hui, chez les philosophes. Qu'est-ce qu'ils font, ça? Jusque-là, qu'est-ce qu'on disait, hein? Vous savez bien. Vous connaissez quand même ces choses-là. Qu'est-ce qu'on disait? On disait que c'était la nature. La morale se fonde sur la nature. Vous avez dû entendre ça. les échos, ça, hein, lointains, peut-être. Bon, vous avez dû entendre que la morale se fonde sur la nature. Et vous avez dû entendre parler d'un droit naturel. Dans les bonnes maisons, ça, on en parle. Un droit naturel. Donc la morale se fonde sur la nature et puis un droit naturel. Alors, c'est vrai. C'est, alors, qu'est-ce que ça représente exactement? Ce droit naturel, ça se fonde sur la nature. Alors, est-ce que je peux dire que la morale se fonde sur la nature humaine et que l'acte de justice correspond simplement au droit naturel? C'est une question très difficile à répondre, hein, et très importante aujourd'hui. C'est très très important de savoir. Si vraiment je peux dire que quand je paie mes dettes, c'est à cause de ma nature humaine. Pour épanouir ma nature humaine, pour que ma nature humaine soit bonne. Et qu'elle soit donc, en définitive, conforme à la sagesse du Créateur. Parce que la nature humaine est quand même pensée par le Créateur. La nature humaine, qu'est-ce qu'il a pensé, la nature humaine, hein? Tout à l'heure, nous verrons l'Écriture. C'est vrai, c'est la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu qui a pensé cette nature humaine. Donc, le droit naturel correspond au reflet de la sagesse de Dieu dans la nature humaine. Il y a un droit naturel. Il y a un droit naturel. J'ai un droit naturel à pouvoir quand même prier. C'est un droit naturel de pouvoir prier. J'ai un droit naturel de pouvoir manger correctement. C'est un droit naturel. Ça veut dire, c'est la fameuse chose que saint Thomas a dit. Vous mourriez de faim et vous passeriez à côté d'un champ. Il y a des raisins, vous avez le droit d'arracher les gras et de l'en nourrir. Un droit naturel. Un droit naturel pour l'événement. C'est vrai, quelque chose qui est un droit naturel. Mais ce droit naturel, est-ce que je peux en parler au point de vue philosophique? Tout de suite comme ça. Vous voyez que j'ai fait appel à la sagesse de Dieu. Alors, c'est au fond une vision de sagesse. Ayant découvert que Dieu est mon créateur et qu'il est le créateur de mon âme spirituelle, je peux dire que mon âme spirituelle reçoit la marque de la sagesse de Dieu et que dans mon âme spirituelle, il y a bien un certain droit naturel qui est le reflet de la sagesse de Dieu. C'est le reflet de la sagesse de Dieu. Mais si je ne regarde pas dans la lumière de la sagesse de Dieu, je ne découvre pas le droit naturel. Il ne faut jamais l'oublier, ça. C'est les stoïciens qui ont parlé les premiers du droit naturel. Ça n'existe pas chez Aristote. Ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant. Hein. Mais c'est intéressant de voir que ce sont les stoïciens. Et par les stoïciens, ça a pénétré dans la morale chrétienne. Par les stoïciens, ça fait des choses à droite. Et vous trouvez chez saint Thomas, qui est une question de droit naturel, chez saint Thomas. Mais il faut bien comprendre, saint Thomas est un théologien. Donc c'est toujours dans la lumière de la sagesse de Dieu. C'est toujours dans la lumière de la sagesse de Dieu que vous parlez d'un droit naturel. Vous ne pouvez pas découvrir le droit naturel en regardant votre nature humaine. Vous n'arrivez pas. C'est trop complexe. La nature humaine est trop blessée pour découvrir son droit naturel uniquement en elle-même. Alors, on découvre le droit naturel à partir de la sagesse de Dieu. Et alors, on découvre qu'il y a un droit naturel en nous. C'est pour ça que je reviens à la question. Si je dis ça, je peux dire que dans la lumière de la sagesse de Dieu, il y a un droit naturel. Et dans la lumière de la sagesse de Dieu, je peux dire que l'homme, dans sa nature humaine, est bien ce qui explique le point de vue de la morale. On dit la morale se fonde sur la nature humaine, mais ça dans une lumière de sagesse, et pas autrement. Alors, je reviens à la question, parce que l'ordre de la sagesse est quelque chose d'ultime, mais ce n'est pas quelque chose de premier. Je reviens à ma question, qu'est-ce qui fonde la morale au niveau philosophique, pas au niveau sagesse? Je vous dis, c'est après la question de Nietzsche, c'est capital. capital aujourd'hui. C'est pour ça qu'au fond, les gens sont tous imprégnés de Nietzsche, et quand vous faites appel uniquement au droit naturel, ça ne marche plus. Pourquoi? Parce que le droit naturel présuppose la sagesse de Dieu. Alors, si vous avez découvert la sagesse de Dieu, vous comprenez. Mais est-ce qu'il n'y a pas une morale au niveau proprement humain dont le fondement n'est pas la sagesse divine, dont ce fondement est inscrit dans l'homme? Et c'est ça qui est important à saisir pour voir la manière dont le philosophe va élaborer une philosophie morale. Bien, je crois, et c'est ce que nous allons essayer de voir ensemble, parce que ça c'est quelque chose d'intéressant à voir, je crois que nous pouvons dire qu'au sens tout à fait précis, il n'y a pas de fondement de la morale, mais il y a une finalité, c'est pas la même chose. Le fondement c'est la base, la finalité c'est le sommet. Je crois qu'on peut dire que la morale se justifie par elle-même. Mais la vraie morale, c'est-à-dire la morale pas d'une voie, la vraie morale du bonheur, la vraie morale d'une finalité, elle se justifie par elle-même. Et ceci, c'est très important parce que ça fait comprendre alors que le fondement de la morale, c'est la finalité elle-même. Je pose ça en question, parce que c'est très délicat. C'est une de ces questions très délicates et très importantes à saisir. Parce que nous n'avons pas affirmé des choses qui sont, si vous voulez, qui sont des données secondes comme des données premières. Je crois qu'on peut dire que la morale va se découvrir elle-même à l'intérieur même de ce que représente l'obligation morale, de ce que représente la responsabilité. Alors à ce moment-là, il n'y a pas de fondement. Vous comprenez que la nature humaine ne peut pas être un fondement, puisque la nature humaine, en elle-même, elle peut agir bien ou mal. Donc c'est pas ça qui est fondamental. Ça fondrait le doute. La nature humaine, de fait, concrètement, il y a des choses mauvaises en elle. Il y a des mauvaises tendances en elle. Il y a des concupiscences. Et c'est naturel, chine avec. Donc j'en peux rien. Chine avec ses concupiscences. Ben, si je suis né avec des concupiscences, c'est naturel. Tout ce qui est premier en moi est naturel. Donc les concupiscences sont naturelles. Et c'est vrai ça. Donc je ne peux pas fonder ma morale sur le point de vue de ma nature humaine. C'est en ce sens-là que vous savez bien, les moralistes, quand ils le disaient, avaient beaucoup de peine quand on montrait que dans certains pays, telle ou telle chose était considérée comme bonne. Vous voyez pourquoi naturel? Ah, mais tu vois, c'est pas si dommage que ça, moi. Je peux voir dès que j'ai précisé la sagesse de Dieu. C'est un problème difficile, je le souligne tout de suite ici, mais nous y reviendrons, vous comprenez, parce que c'est un problème très important. Quand il s'agit de la foi, c'est très simple. Quand il s'agit de la foi, c'est très simple. Toute ma morale chrétienne repose sur ma foi, c'est-à-dire repose sur la révélation, repose donc sur la sagesse de Dieu. Alors, tout à fait d'accord. La sagesse de Dieu qui nous dit ce qu'il faut faire. La sagesse de Dieu qui nous montre comment l'homme peut arriver à une béatitude. C'est très bien. Donc ça repose sur la sagesse de Dieu. Mais si je ne regarde plus la foi, si je ne regarde plus la loi de l'Ancien Testament, et que j'essaie de comprendre, au point de vue purement philosophique, qu'est-ce que c'est que la morale? Qu'est-ce que c'est que l'activité morale? Qu'est-ce que c'est qu'un acte moral? Un acte moral doit être volontaire. Est-ce qu'il doit être libre? Vous voyez, les questions qui sont difficiles à poser, nous y reviendrons. Il faut vous les poser, il faut vous les poser. Est-ce que je dois dire qu'un acte est moral, que seul l'acte libre est moral? Seul l'acte volontaire est moral. Et il y a un volontaire qui n'est pas toujours libre. Ça sera pour moi. Alors, si je pose que l'acte moral doit être volontaire et n'est pas toujours libre, je ne doit poser la question, sur quoi se fonde l'acte volontaire?
L'acte volontaire, il se fonde sur la fin. Donc, c'est bien la finalité qui fonde le moral.
Je vous salue, Marie. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles,
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.